Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Hey, c'est le fun de vous retrouver quand mon nom est mentionné dans la promo juste avant. J'adore ça. Je suis émue. Écoutez, on revient pour parler là de cette nouvelle qui est tombée au cours de la dernière heure. Une injonction qui a été accordée pour démanteler la barricade mise en place par des manifestants mobilisés en appui à la Première Nation Wet'suwet'en, qui, on le rappelle, est impliquée dans un conflit avec Ottawa concernant le passage d'un gazoduc sur son territoire, territoire qui est situé en Colombie-Britannique. Évidemment, bon, dans l'ensemble du pays, vous le savez, là, ça fait jaser, ça fait la manchette un peu partout. On est dans l'impasse depuis 15 jours déjà. Et selon les plus récentes informations, la dizaine de manifestants qui est présent, en fait, là, sur les lieux à Saint-Lambert en ce moment, attendait qu'on leur transmette les informations relatives là, à cette injonction qui a été déposée hier par le CN et qui a été approuvée dans les dernières heures. Donc, évidemment, si les manifestants refusent de plier bagages une fois qu'ils auront accès à l'information, la police sera autorisée à intervenir. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Eh bien, on en discute avec Jean-François Brochu, qui est ex-enquêteur à la Sûreté du Québec et expert en affaires policières. Monsieur Brochu, vous êtes au bout du fil?
Oui, bonjour.
Bonjour. Dites-moi, quels sont les moyens là, à la disposition des policiers pour intervenir auprès des manifestants?
Ben, ça dépend sur quelle barricade on intervient, mais dans le cas ici à Saint-Lambert, là, c'est la base, c'est facile, c'est pas quelque chose, c'est simplement une décision politique, puis également de décider de qui va le faire, parce que c'est une juridiction fédérale, les rails sont la propriété du CN, donc c'est les policiers du CN, on l'a vu, qui sont là, qui sont présents. Cette organisation policière-là ne dispose pas des équipements nécessaires pour faire du contrôle de foule, du maintien de l'ordre. Ils doivent donc faire une demande d'assistance qu'ils ont peut-être fait à la police de Longueuil ou directement à la Sûreté du Québec. Mm-hmm. Si c'est fait par directement à la Sûreté du Québec, ils vont les retourner, ils vont les renvoyer voir leur corps de police municipale de proximité, Longueuil. Mais tout ça, une fois que tout ça est décidé, j'imagine que ça a déjà été fait. Là. Et là, vous l'avez dit, la Cour supérieure a émis une injonction suite à la demande du CN, qui s'est présenté devant les tribunaux. Effectivement, là, le CN est privé de l'utilisation d'un bien. Donc, ces gens-là commettent un méfait. Ces gens-là sont tous arrêtables, en fait, depuis les premières minutes. Ils sont arrêtables. Depuis les premières minutes où ils ont bloqué les rails, ils étaient arrêtables. On aurait pu, je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas fait, les policiers du CN ou de Longueuil auraient pu procéder à des arrestations dès le tout début. On ne l'a pas fait. Il y a des raisons opérationnelles et probablement politiques également à ça. Donc, ces gens-là sont arrêtables, seront fort probablement accusés lorsqu'ils seront arrêtés. Donc, vous l'avez dit, premièrement, c'est de leur signifier. Il y a quelqu'un là qui probablement un policier du CN qui devra aller leur signifier ça sur les lieux, s'assurer que les gens ont bien compris qu'ils risquent d'être arrêtés et accusés de méfaits. Il est certain qu'ils ont droit à un certain temps pour évacuer les lieux. Mais par la suite, et là, c'est une décision opérationnelle, c'est sûr que les policiers qui auront à le faire, l'organisation policière qui devra exécuter, si on veut, procéder aux arrestations, nous annoncera pas quand est-ce qu'elle va le faire, mais ça va se faire progressivement, c'est-à-dire lentement, des avis verbaux, et on procède lentement aux arrestations de chacune des personnes.
Pensez-vous qu'on pourrait en venir à utiliser, à faire usage de la force s'il y a de la résistance du côté des manifestants?
C'est certain que les policiers ne reculeront pas, ça c'est sûr. Mais la résistance, en fait, la force utilisée est autorisée que les policiers peuvent justement utiliser.
Oui, ce qui est raisonnable, mettons-le, oui.
Et voilà, c'est en fonction de la résistance que l'on rencontre. Alors donc, par exemple, on voit souvent ça là, dans ces organisations-là, les gens s'assoient par terre et s'attachent ensemble avec de la corde ou avec en se tenant par les bras, des choses de résistance passive. Mais on va justement voir à défaire les liens, puis à désengager les personnes, et donc pour pouvoir procéder à leur arrestation, leur passer les menottes et les conduire dans un autobus, puis ou ensuite de ça, ben on va procéder à leur identification. Ils seront accusés de méfaits.
Mm-hmm. Avez-vous des craintes quand même d'escalade, là, parce que bon, c'est sûr que les tensions sont à leur plus haut en ce moment, au moment où on se parle, vu que la mobilisation s'intensifie d'un bout à l'autre du pays et qu'il ne semble pas y avoir de sortie de crise là, immédiate. Croyez-vous qu'on pourrait vraiment en venir à quelque chose de beaucoup plus musclé que ce que vous venez de me décrire?
Ben, moi, je crois pas qu'on va aller là, qu'on va rencontrer tant de résistance que ça à Saint-Lambert. C'est pas vraiment. Puis non plus, on n'aura pas, je pense, de réaction des communautés autochtones en support à ces gens-là, parce que je ne pense pas qu'il y ait vraiment de lien, hein, de lien de, si on veut, entre eux. Hein. On a beau dire que les gens de Saint-Lambert là supportent les autochtones de l'Ouest, mais je pense que je pense pas qu'il y ait une réaction de la part des autochtones en support à ces gens-là.
C'est ça, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur les manifestants là, en ce moment qui sont sur place. Ce qu'on sait, c'est que c'est pas un groupe désigné. Ce sont des gens qui sont juste venus en solidarité à la première nation de Wet'suwet'en. C'est pas un groupe autochtone. C'est pas comme Extinction, un rébellion, donc un groupe de pression organisée. Donc, c'est des personnes un peu dispersées, effectivement. Donc, on peut pas les associer à une mouvance particulière, si ce n'est que le besoin d'afficher sa solidarité là, avec les communautés là, d'ici et d'ailleurs là, au pays. Ouais. Dites-moi, on sait que le service de la police de Longueuil en ce moment est sur place, mais ils ont aussi fait appel à la SQ. Pourquoi? Sachant justement que on a une dizaine de manifestants plus ou moins organisés, on ne sent pas vraiment qu'il y a des tensions plus grandes qui pourraient éclater. Pourquoi avoir fait appel à la SQ dans ce contexte?
Je pourrais pas parler au nom des autorités de la police de Longueuil. Mmh. Ça leur revient. Maintenant, les organisations policières se parlent. Il y a des tractations entre elles, à savoir à qui on va passer le mandat. Et c'est certain que dans les niveaux de service, c'est le niveau de service 6 de la Sûreté du Québec. Si la police de Longueuil demande assistance à la Sûreté, cette dernière devra donner suite. Comme je vous dis, là, je suis pas dans les cartons de la planification policière de l'opération avec la police de Longueuil.
Mm-hmm. Et là, ce qu'on sait, c'est que les policiers sont autorisés à intervenir à Saint-Lambert, mais pas à Ganawake. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que pour le public, c'est peut-être pas évident de comprendre pourquoi on peut intervenir comme ça à Saint-Lambert, demander aux manifestants de quitter les lieux, mais qu'on laisse ça aller dans d'autres secteurs qui entraînent des interruptions de service là, sur le réseau de train.
Ouais, à Ganawake, on connaît tous la problématique, les gens qui demeurent dans la région de Montréal plus qu'ailleurs, mais on connaît tous la problématique et on est sur le territoire de la communauté autochtone, Mohawk de Ganawake, et il y a un corps de police dûment constitué qui est là, qui s'appelle les Peacekeepers, qui dépendent de leur conseil de bande, et en principe, c'est à eux de faire régner l'ordre sur leur territoire. Et s'ils demandent assistance, à ce moment-là, une autre organisation policière peut le faire, mais sinon, c'est leur mandat.
Et nous, on n'a vraiment aucun pouvoir coercitif là, de ce côté-là, c'est ça? Donc, la police canadienne, québécoise, blanche ne peut pas intervenir sur ce territoire-là à moins d'y être invitée. C'est ce que vous êtes en train de me dire?
On tombe exactement dans le problème de cette affaire-là depuis le début. C'est la politique, la volonté politique d'intervenir et les risques de dégradation de la situation. Vous savez, le chef Picard lui-même a souhaité le démantèlement des barricades dans l'Ouest, mais il a également déjà souligné le fait qu'une intervention policière pourrait avoir des conséquences de voir la situation se dégrader. Alors, c'est très difficile comme situation présente. Présentement, mon point de vue à moi, c'est qu'on aurait dû intervenir dès le tout début, alors qu'on avait un tout petit nombre de manifestants dans l'Ouest et où ces gens-là n'avaient pas le support de leur communauté. Parce qu'on le sait, la communauté a déjà accepté le projet, a déjà reçu des compensations. Alors, ce sont des chefs traditionnels qui s'y objectent, qui ont perdu les élections, qui ont été battus à plate couture dans l'Ouest durant des élections. Ce sont eux qui ont décidé de bloquer le rail. Alors, si on était intervenu à ce moment-là, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui.
Oui, mais il reste quand même que, les membres de la société civile partout au pays sont autorisés à manifester. Et quand on envoie des policiers trop tôt dans un mouvement pour mater les manifestations, on ne règle aucun dossier. Tout ce qu'on risque, en fait, c'est d'envenimer la situation, vous ne croyez pas?
C'est-à-dire que oui, on est autorisé à manifester, mais au même titre, madame, que si on monte sur le pont Jacques-Cartier à 8h le matin, les policiers vont intervenir rapidement parce que à cause du dommage que ça cause. Alors la même chose quand on bloque le chemin de fer transcanadien, on le voit là économiquement, c'est une crise importante. On le sait tous là, ceux qui ne savent pas là, il faut écouter les nouvelles un peu là. C'est une crise qui s'empire tous les jours à vitesse grand V. Alors donc le préjudice, le dommage causé nécessitait une intervention rapide.
Oui. Ben, on comprend qu'évidemment, la ligne des manifestants s'arrête quand l'acceptabilité sociale prend un peu le bord. Écoutez, les manifestants de Saint-Lambert ont exprimé leur solidarité à la Première Nation de Wet'suwet'en. On comprend ça. Je voulais qu'on parle justement des opérations policières là-bas un peu plus en détail, parce que là, on sait maintenant que la Gendarmerie royale du Canada a accepté de retirer ses agents du territoire ancestral. C'était une condition demandée par la communauté pour retourner à la table de discussion avec le gouvernement Trudeau. Moi, je veux savoir qu'est-ce que vous pensez de cette décision.
Bon, là, écoutez, ça, encore une fois, c'est tellement difficile, cette situation-là, que je peux comprendre que devant la menace, on ait cédé sur cet aspect-là. On le sait, là, pour les gens, là, c'est un poste de police temporaire qui a été installé par la GRC, à peu près 15-20 policiers. Ces postes de police temporaires-là a été effectivement installé sur les terres ancestrales parce que ils sont là, eux, pour justement surveiller la progression des travaux sur le Coastal GasLink, hein, mm-hmm. c'est le pipeline qui passe dans le secteur.
Voilà.
Il y avait des menaces sérieuses de vandalisme contre ce dernier. Alors donc, c'est pour ça que la GRC a déplacé des policiers pour être plus près des lieux. Qu'on ait accepté. En fait, vous savez, dans toute négociation, là, il faut toujours c'est toujours du donnant-donnant, et il faut essayer d'avoir une solution gagnant-gagnant. Quelles sont les concessions que les Autochtones ont accepté de faire en échange du retrait de ces 15 ou 20 policiers de la GRC? Ils vont se déplacer, ils vont déplacer leur poste à l'extérieur des terres ancestrales. Est-ce qu'on a eu un gain là-dessus, ou est-ce qu'on le fait et on n'a pas de gain? Encore une fois, c'est le travail des négociateurs qui sont à la table, les négociateurs fédéraux du gouvernement fédéral. Quelles ont été les concessions qu'ils ont obtenues pour donner celle-là? Parce que généralement, en négociation, il faut qu'il y ait un gain des deux côtés.
Ouais. Avant qu'on se laisse, j'aimerais ça parler de quelque chose d'un peu plus personnel. J'aimerais qu'on parle plutôt des relations entre les policiers et les Autochtones. Vous, vous avez été combien de temps dans la police, M. Brochu?
35 ans.
Vous avez quitté depuis combien de temps à peu près?
J'ai quitté depuis 4 ans, mais j'ai travaillé pendant 8 ans avec les Autochtones, dont 2 ans dans le Grand Nord du Québec. J'ai travaillé avec les communautés Inuit et les communautés Cree.
Bon, ben parlons du big picture, là, donc de la prise de conscience collective qui entoure les enjeux et les réalités des Autochtones. Est-ce que vous sentez que ça s'est rendu jusque dans la police? Est-ce que vous avez senti là, une espèce de changement de culture entre le début de votre carrière et la fin?
Ah ben tout à fait. Moi, en 1980, je travaillais à Chibougamau et j'avais la communauté autochtone de Mistissini Lake sous ma couverture. Et on a eu dans les années 80 déjà de la formation sur les mœurs et les coutumes, les us et coutumes autochtones, et on était très sensibilisés. C'est certain que je vous remonte ça loin en 1980, mais depuis ce temps-là, le progrès n'a pas cessé sur la compréhension. Mais il y aura toujours souvent des méconnaissances ou des doutes, mais ça, c'est des deux côtés, hein. C'est aussi de la part des Autochtones.
La méfiance.
La méfiance envers les autorités, même si c'est, dans certains cas, ils ont peut-être raison, mais dans d'autres, tout à fait tort. Mais ça, je veux dire, ça fait partie de... C'est dans toutes les communautés. Entre nous, il y a à l'occasion des frictions, et ça arrive dans nos familles aussi. Alors ça... mais oui, je pense que la situation s'est considérablement améliorée sur ce côté-là.
Mais peut-être que la récente décision de la Gendarmerie royale du Canada s'inscrit justement dans ce changement de culture. Donc, merci beaucoup à vous, Jean-François Brochu. Je le rappelle, vous êtes expert en affaires policières. Vous êtes un ex-enquêteur de la Sûreté du Québec. Vos réponses ont été fort éclairantes sur le dossier qu'on va continuer de suivre tout au long de l'émission. Donc, merci encore une fois. Et après la pause, on retrouve Master Bugarici pour sa chronique sur